Chers amis de PFC, bonsoir. Bienvenue à Romainville le dimanche 12 octobre 2014. Nous sommes un parfait octogone ce soir, 8 personnes ici présentes. Et nous avons aussi fait la méditation de libération planétaire à 21h en nous disposant dans l'octogone pour la première fois. Voilà. On va faire un tour de micro. On peut profiter de ce tour de micro pour saluer une ou plusieurs personnes qui ne sont pas présentes ici.
Bonsoir, c'est Florian. Je salue Marine.
Bonsoir, c'est Catherine. Je salue Anne-Marie.
Bonsoir, c'est Ludmilla. Je salue Nancy, Roland, Thierry, Jacques, Marine, et voilà.
Bonsoir, c'est Christine. Je salue Lina. Je salue Marion, Jean-Louis, Intissar. Bonne soirée.
Salut, c'est Antoine. Salut Christelle.
Bonsoir, c'est Claire. Je salue Lina en lui souhaitant une toujours meilleure santé et la félicitant pour cette nouvelle, ce nouveau déménagement. Je t'envoie plein d'amour, Lina. Et puis, j'envoie aussi plein de rayons de soleil à tous les gens qui ne sont pas venus depuis longtemps. Roland. Qui est-ce qui n'est pas venu depuis longtemps? Intissar. Et puis ceux que j'ai oubliés, pardonnez-moi.
Bonsoir Stella, je salue Sandra. Merci.
Bonsoir, c'est Avi. Alors, moi, je salue Juliette. Un chaleureux bonjour à Juliette, que j'ai pas vue depuis un petit moment. Je salue bien Nico, qui n'est pas présent aujourd'hui. Véronique, de tout cœur. Thierry, qu'on n'a pas vu depuis un moment. Bienvenue, un salut chaleureux à Dan. Antoine Hélène, Carolina, Marie, qui est tout près de Lina en Bretagne, maintenant, du futur lieu de Lina, Michiko, qu'on n'a pas vu non plus depuis très longtemps, Gilles, et Ashwak du côté de Montpellier. Et puis, un très chaleureux bonjour à Lina, ravi que tu aies trouvé ton lieu de vie, j'espère. Tu vas rayonner la santé à l'image de ce que tu as pu générer dans l'acquisition, la location de ce nouveau lieu. L'intention prend forme dans la réalité. Ainsi peut-il aussi se réaliser dans la forme physique, dans ta guérison, Lina, que je souhaite de tout cœur. Voilà, ce soir, essayez de dire votre prénom avant de parler, comme ça on pourra savoir qui parle, surtout ceux qui sont à distance. Nous sommes tous à égalité de rôle. Je rappelle que chacun exerce ses compétences, qu'il n'y a pas de chef et que c'est le plus important, à mon avis, dans ce mouvement, c'est qu'on soit tous à égalité de rôle, chacun avec sa compétence particulière. Et puis nous sommes discrets dans nos jugements, dans la concision et dans le centrage de la parole sur des sujets reliés à PFC. Guérison, gouvernance, finance, médias, renaissance, technologie. Qu'est-ce que vous avez vécu cette semaine en relation avec PFC? On peut parler des méditations, de libération énergétique que certains ont pu faire sur Paris cette semaine. On peut parler aussi de qu'est-ce que vous avez appris comme nouvelles du monde reliées à PFC. Voilà. Moi, je vais commencer par quelque chose d'un peu étrange qui m'est arrivé cette semaine. J'en ai déjà un petit peu parlé à certains. C'est en sortant d'une séance de cinéma en relief avec des lunettes spéciales, et j'ai vu le film Lucie de Luc Besson. Ah, tout d'un coup, je vois Luc et Lucie, hein, la similarité des deux prénoms aussi. C'est un film que j'avais envie de voir depuis longtemps, parce qu'une amie m'avait dit qu'elle avait énormément apprécié, mais que d'autres avaient un esprit très critique à propos de ce film. Et puis, comme j'aime beaucoup Luc Besson, ben, j'ai vu qu'il était projeté en relief au Grand Rex. Alors j'ai attendu un petit peu que le début des séances, et j'y suis allé le premier jour de sa projection. Alors très brièvement, l'histoire du film, c'est l'histoire d'une femme qui, après des circonstances un peu exceptionnelles, arrive à déployer les capacités de son cerveau. On commence à 10%, ce que la plupart d'entre nous utilisent, et en arrivant à 100% de ses capacités. Alors même si le cerveau, c'est le siège du mental, je dirais que c'est aussi dans le cerveau qu'il y a la télépathie, il y a aussi dans le cerveau que tous nos talents, toutes nos capacités mentales, qui ne sont pas seulement celles de la dualité, peuvent se révéler. C'est aussi notre instrument de perception de la dualité et de la non-dualité. Et donc, le cerveau peut être aussi à notre service quand il se déploie, comme c'est le thème de ce film. Alors, j'ai beaucoup apprécié le film, mais l'essentiel pour moi, c'est passer à la sortie du film. À la sortie du film, j'ai vécu à peu près 30 minutes d'expansion de conscience. Dès que j'ai poussé la porte et que je me suis retrouvé dans la rue, mon cerveau fonctionnait différemment. Alors, est-ce que le film était un espace de suggestion pour ouvrir cette nouvelle perception en moi? Je ne sais pas. Ça m'a rappelé un peu les effets de l'eau tachyonisée. Je me suis demandé si le fait que j'en consomme depuis au moins 3 mois, est en rapport avec ça. Est-ce qu'il y a des choses subliminales dans le film? Je ne sais pas. Toujours est-il que je me suis retrouvé avec une vision très extra-lucide de tout ce qui se passait dans la rue. Chaque visage, tout était très précis. Je pouvais voir toute la situation et tous les détails en un seul regard, et j'avais comme une connexion à tout ce qui se passait, très très lucide. Ça me fait ça un petit peu avec l'otakionisé, un mental très fonctionnel, analytique, où je peux très rapidement tout savoir sur ce qui se passe. Chez moi, ça se traduit pas comme ça. Dans mes journées, de temps en temps, je me trouve très efficace. C'est peut-être le mot que je peux employer. Quand je fais un tour dans la maison, je dis, je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je range ça. Et puis tout s'organise tout seul, d'une certaine manière. Et je me trouve, waouh, j'ai pas besoin de réfléchir, ça se fait tout seul. Alors là, dans la rue, je voyais tous les visages. Ding, 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 ding. C'était vraiment des microsecondes par-ci, des microsecondes par-ça. Comme si c'était un écran de Robocop avec les chiffres qui s'affichent. Tout est analysé en temps réel. Et j'ai commencé à prendre mon vélo. Alors là, waouh, ça s'est ouvert encore plus grand. Pour rentrer chez moi, alors que c'était presque 18 heures, circulation dans Paris très dense. Même le vélo, j'avais du mal à circuler, mais je pouvais voir que le piéton avançait à droite, voir que la voiture en face venait de ce côté-là, qu'il y avait un passage entre ça et ça, et je pouvais circuler comme si j'avais un super ordinateur dans ma tête. C'est ça que j'ai ressenti. Donc c'était vraiment des capacités mentales, cérébrales, qui étaient là. C'était assez jouissif intérieurement, parce que j'avais l'impression comme si j'avais une connaissance, une photo de toute la situation en moins d'une seconde. Dès que la situation changeait, ça se réactualisait. Et j'avais pas besoin de réfléchir, j'avais pas besoin de... C'était en temps réel. Voilà, donc... tout de suite, c'était en relief. Alors, est-ce que le relief aussi a ouvert quelque chose dans mon cerveau? Je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Mais donc, j'ai eu envie de le revoir très vite. Et donc, on a... convenu avec Catherine et puis Christine d'y retourner lundi, demain, à la séance de 16h au Grand Rex. Et puis, si ça joue chez vous, profitez-en pour voir ce qui se passe. J'ai toujours été assez sensible aux films de Luc Besson, même si parfois il y a un peu de violence. J'arrive à ne pas me focaliser sur la violence, comme si la violence, sans la considérer de manière primaire, avait aussi un message à apporter dans le film. Je ne la prends pas au premier degré pour ma part. Donc Léon, c'est très violent, Nikita, il y a de la violence. Et puis Le Cinquième Élément, j'ai adoré ce film. Je crois que c'est un des seuls films dont j'ai acheté le DVD avec Matrix. À un moment dans ma vie, j'avais deux DVD, j'avais seulement Matrix et Le Cinquième Élément. Pendant des années, c'est des films que j'avais envie de revoir sans me lasser, indéfiniment. Hein. Voilà, donc Lucie, j'ai eu envie de le revoir très vite, parce que il y a des choses qui passent très vite et qui sont denses et qui méritent sûrement plus de... Et puis il y a certainement, je le dis intuitivement, il y a certainement des messages dans ce film, parce que ça parle de l'humanité, je pense que c'est plus profond que juste une expérience de déploiement cérébral. Ça semble contenir un message pour nous les humains, lequel à explorer, à approfondir. Mais je crois que Luc Besson a... Ah oui, il y a Angela aussi, qui m'a énormément touché comme film. Histoire d'un ange qui descend sur Terre pour transformer la vie d'un être humain qui est au bord du suicide et qui est incarné dans le film par Jamel Debbouze. Alors, Angela, Nikita, Lucie, Léon, que des prénoms, si vous regardez bien. Quatre films, que des prénoms. Pourquoi ? Encore un mystère pour moi, mais ça parle d'être humain, en gros, hein, ça parle d'humanité. Donc, un film, à mon avis, qui est là pour notre conscience. Chacun trouvera le message qu'il ou elle veut trouver, mais je n'ai jamais eu, même après La Belle Verte, je n'ai jamais eu une conscientisation pareille et directe après un film. Jamais. Hein, c'est la première fois. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prêt en moi à recevoir le message? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand-chose. Ce que je sais, c'est ce que j'ai vécu était vraiment unique. Et peut-être ce film m'a préparé à ouvrir un talent particulier. Ça a duré 30 minutes, le temps que je rentre chez moi. Et ensuite, ça s'est estompé, ça s'est arrêté. Voilà, en même temps, je sens qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de pouvoir donner à un film plutôt qu'à un autre, mais c'est mon expérience. Et est-ce que ça témoigne d'une ouverture de la conscience à l'échelle humaine, hein, pas seulement pour moi. Est-ce que ça témoigne de nouveaux dons qui émergent dans l'humanité et que voilà, si vous aussi vous vivez des choses particulières pendant la visualisation du film ou après, communiquer à propos de ça, peut-être qu'il y aura des similitudes ou des choses à mettre en relation. Voilà pour ma part. Des nouvelles du monde, des nouvelles de cette semaine ou d'autres.
Moi je suis rentré en contact avec un dans le dernier bloc de Cobra, à la fin du poste, il mentionne un groupe d'écrivains d'Asie du Sud qui ont été contactés par Agartha de 2009 à 2013. Et je suis rentré en contact avec l'un d'entre eux et c'est une histoire qui me touche beaucoup on commence à travailler ensemble. En fait, c'est un jeune homme très, très jeune, je pense qu'il avait 19-20 ans. En 2009, il a écrit un article sur Internet pour proposer des solutions. En fait, il a un projet qu'il appelle ça le supermarché des solutions. Et c'était plein de solutions à plein de différents problèmes de notre vie quotidienne. Des médecines alternatives, des compléments par exemple d'iode ou de vitamine C, enfin, des choses très simples qu'il n'a pas inventées, mais il compilait le truc et il proposait des manières de les mettre en place pour que l'humanité y ait accès largement. Par exemple, des filtres à eau qu'on peut faire soi-même avec du sable et du charbon pour les pays en difficulté, des éoliennes qu'on peut construire soi-même, enfin, plein de choses que n'importe qui peut faire à la maison avec peu de moyens. Pour résoudre plein de problèmes de santé, de financiers, d'énergie, etc. Et il s'est retrouvé en plein milieu d'une guerre occulte, et pas que occulte, et physique aussi, où il a été contacté par Agartha. Il est à Taipei, à Taïwan, et donc il y a certaines choses qui sont un peu plus faciles là-bas, si j'ai bien compris. Il a été contacté par eux et ils lui ont dit qu'ils avaient fait une simulation pour le futur. Donc c'est pas une prédiction, c'est une simulation. Et selon eux, son projet avait la capacité de changer le timeline, de l'affecter pour que les choses aillent beaucoup mieux et rapidement. Et donc il a été contacté de 2009 à 2013, il y a eu des contacts réguliers. Et centré là-dessus, sur ce projet de supermarché de solutions, parce que selon eux, c'était quelque chose qui pouvait vraiment changer les choses sur Terre assez, assez rapidement. Et peu après qu'il a été contacté par Agartha, il a aussi reçu des menaces de mort de la Kabbale, si jamais il commençait à parler, s'il continuait son projet. Donc il a été obligé de rester silencieux jusqu'à cet été-là, août 2014. En août le contact avec Agartha s'est arrêté en 2013. Et en août 2014, il a reçu un message anonyme comme quoi il était en sécurité maintenant s'il voulait parler. Et du coup, il a commencé à parler, mais il y a très peu de gens qui écoutent. Les gens sont très, très facilement manipulables, que ce soit éthériquement ou autre. Il a du mal à trouver des gens avec qui travailler, avec qui lancer ce truc-là, alors que c'est des choses qui peuvent être mises en place très facilement. Donc, peut-être qu'on pourra... Moi, j'ai commencé à... Je traduis ses articles en français. Il a écrit un livre où il raconte beaucoup de choses sur ce qui s'est passé entre ses contacts avec Agartha et les menaces de mort de la Kabbale, où des fois, il avait un rendez-vous avec le mec d'Agartha dans un lieu public, et il y avait 4-5 mecs apparemment déguisés en clodo, qui étaient de la Kabbale, qui étaient là pour le tabasser. Il y avait la résistance qui était à côté pour empêcher la cabale de le tabasser. Enfin, c'était, il s'est trouvé au milieu de... c'est, pour lui, c'est presque un film de science-fiction, parce qu'il ne se doutait pas que son petit article allait générer tout ça. Et du coup, voilà, il a écrit un bouquin donc, que je vais traduire aussi en français. Voilà, on pourra peut-être poster les articles pour essayer de faire circuler un peu l'info, parce qu'il y a vraiment des bonnes solutions, des trucs assez faciles à mettre en œuvre en fait, et qui c'est pas des trucs compliqués quoi, mais ça peut vraiment changer la vie si le truc circule et c'est produit à grande échelle.
Catherine, c'est une question pour toi, Antoine, ou pour ceux qui savent. Quand tu dis qu'il a rencontré des gens de la Gartha, en fait, pour moi, ce n'est pas clair. Ça ne veut pas dire le mouvement de la résistance. La Gartha, c'est les gens de l'intra-terre, les êtres ectoplasmiques, c'est ça? Enfin, je ne pige pas. Tu peux préciser ça?
Agartha, en fait, c'est un mot qui veut juste dire la terre intérieure, donc à l'intérieur de la terre. En fait, il y avait des civilisations qui étaient là depuis toujours. Il y a 25-26 000 ans, il y a eu le dernier cycle cosmique, le soleil central, c'est comme tous les soleils sont comme des cœurs, donc tous les soleils, toutes les étoiles battent comme un cœur régulièrement. Le soleil central bat tous les 25-26 000 ans. Il y a la procession des équinoxes du pôle de la Terre qui est synchronisée, qui dure aussi 25-26 000 ans à peu près. Et donc au moment du dernier battement de cœur du soleil central, il y a 25-26 000 ans, c'est là où on a eu la chute d'Atlantis. Il y a eu beaucoup de drames avec beaucoup de différentes factions. Et les Archons en ont profité pour installer la quarantaine qui a démarré à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans la lumière qui sont descendus à Agartha pour éviter à la règle des Archons et à l'esclavage. Et qui se sont... dans Agartha, il y a trois cercles. Il y a un cercle central de prêtres qui sont dans les mêmes corps depuis 25 000 ans, qui sont au-delà de la réincarnation et qui ont contact qu'avec le cercle du milieu d'Agartha. Donc ils se sont fermés pour maintenir leur conscience pure et maintenir une énergie bonne pour la Terre, pour pas que la Terre explose complètement. Il y a le cercle du milieu qui fait le lien entre le cercle du centre et d'autres cercles. Populations, ils ont eu des chambres de téléportation, donc ils ont des visiteurs, etc. Et le cercle externe qui travaille un peu plus en direct avec la population. Et c'est des gens qui sont pas... ils sont dans physique. Ils sont pas dans d'autres plans, ils sont dans des corps physiques comme nous. Oui. La civilisation sous terre, c'est physique. On peut y rentrer, on peut en ressortir, c'est dans un corps physique.
Rien à voir avec les bases souterraines,
les 51,
tout ça.
Non, Agartha, quand on dit Agartha, c'est plutôt la lumière. La Kabbale aussi avait des bases sous terre. Ils ont attaqué beaucoup, il y a eu beaucoup de guerres dans les 25 000 ans entre Agartha et la Kabbale, sous terre. D'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, beaucoup de guerres, en fait, ont démarré sous terre, et en fait, ce qui se passait au-dessus, c'était une réflexion de ce qui se passait en dessous. La résistance, ça a démarré en 1975, c'était juste des agents qui étaient sur la surface, qui étaient dans certains gouvernements de la surface, qui, en travaillant, ils avaient des bonnes intentions au fond, mais ils n'étaient pas complètement réveillés, et en travaillant dans le système, ils se sont rendus compte de ce qui se passait vraiment. Donc ils ont commencé à vouloir changer les choses. La Kabbale est partie après eux, a essayé de les tuer. Ils se sont réfugiés sous les métros de New York en 1975. Et ils sont descendus, ils se sont cachés là. Et à force de descendre, ils ont trouvé des entrées qui rentraient dans des tunnels d'Agartha. Et là, ils ont été contactés par Agartha qui les a aidés à s'installer. Donc c'est... Il y a Agartha et la résistance, disons, qui travaillent ensemble, ils coopèrent, mais ils ont différentes histoires. Quoi. Et là, Je ne sais pas exactement s'il a rencontré des gens d'Agartha ou de la Résistance. C'est des gens de l'intra-terre. Je sais pas. Lui, après, il n'en sait pas. Il ne s'y connaît pas tous les détails. Il a juste été contacté physiquement. Ils sont allés le rencontrer. Et ils lui ont pas donné beaucoup de détails sur rien. Ils voulaient juste l'encourager et le guider pour qu'il mette en place son projet. Parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de donner beaucoup de détails, parce qu'une fois quelqu'un a de l'information, il est plus exposé aux attaques. Donc déjà que là, il était déjà très exposé. Voilà, on n'a pas tous les détails, mais... Et donc Cobra, il a posté deux liens de ses articles dans son dernier post. C'était un post qui avait beaucoup de sujets. Il y a les liens dans le blog. Il a confirmé que c'était une histoire vraie.
Merci Antoine. Quand tu dis que... Enfin, ce que je vais te demander, c'est sur les Agartiens. Quand tu dis qu'ils sont physiques, ils sont pas quand même pas dans la même dimension que nous, en troisième dimension.
Question basique, c'est Catherine, mais parce que j'ai besoin de comprendre, je sais pas si tu peux éclairer ça. Donc la question, c'est si c'est vraiment des êtres dans des corps physiques comme nous, je comprends pas comment on peut vivre sous terre. Et même si c'est des êtres de la résistance dont tu parlais, qui sont réfugiés depuis 1975 sous les métros, oui, enfin sous terre, hein. Ouais. Voilà, ça veut dire qu'ils vivent depuis cette époque sous terre, sans voir la lumière. Alors, comment est-ce qu'ils font? Et puis après, j'ai une autre question derrière.
Il y a certains systèmes de miroirs qui reflètent le soleil, donc ils ont de la lumière. Il y a une certaine source de chaleur qui vient du centre de la Terre et qui aussi produit une certaine énergie. Et ils ont des technologies aussi qui permettent, à base de tachyon, qui permettent de créer de la lumière. Et aussi, c'est un peu comme Voyage au centre de la Terre, le livre de Jules Verne. Ils se retrouvent dans des endroits qui sont totalement habitables. Et ils peuvent faire pousser à manger, etc., etc.
Ok, est-ce que ça a à voir, je ne sais pas si c'est en lien, mais je crois que c'est en Turquie ou je ne sais plus où ils ont trouvé une ville souterraine, carrément. Je crois que c'est en Turquie, on peut voir ça sur Internet. Hein. Il y a une entrée et puis il y a vraiment, ça descend très profondément et c'est tout organisé, il paraît, avec les adductions d'eau, avec tout. Est-ce que c'est du même ordre,
hein? Ça... Anton Parsi en parle dans un de ses bouquins. Ça date de plusieurs millénaires et lui, il dit que ça devait servir. C'était une ville souterraine des Anunnaki parce qu'il disait que ça correspondait la taille des tunnels correspondait exactement à la taille des Anunnaki. Donc voilà, il se servait ça comme ville souterraine puisque, d'après Anton Parsi, une grande partie... les Anunnaki n'étaient pas visibles auprès des humains, quoi. C'était des divinités, mais cachées. Et c'était un exemple où ils se cachaient, quoi. Voilà, donc ça peut être une réponse.
Si je retrouve le lien, je te l'enverrai.
Je connais quelques personnes qui, on va dire, avec une capacité du troisième œil, apparemment, bon, je sais pas, hein, personnellement, je vois pas, mais il a la capacité de voir certains êtres extraterrestres qui sont sur la surface, mais qui sont comme nous, comme des humains, mais qui arrivent par une technologie à influer dans les esprits des humains une certaine apparence pour qu'ils passent inaperçus, quoi. Ils ont une technologie de camouflage qui permet de se faire passer pour un humain alors qu'ils ne le sont pas, quoi. et ça permet de passer inaperçu parmi la population et de faire leurs travaux. Je ne sais pas ce qu'ils font après. Et justement, cette personne avait essayé de les approcher, et ces personnes avaient gentiment dit d'arrêter de les suivre, que ça ne servait à rien. Et donc voilà, donc ça c'est un exemple. C'est... Apparemment, il y a beaucoup d'êtres qui sont parmi nous, mais qui sont camouflés parce que pour oui par sécurité, bon parce que
les gens de la guerre.
Je sais pas. Après, c'est des extraterrestres, voilà. Mais après, c'est possible, oui, d'avoir un corps extraterrestre sur Terre. Et ensuite aussi, il y a des corps humains qui ne sont pas véritablement issus d'un utérus, qui peuvent être générés par des matrices, comme on dit, des matrices artificielles, par clonage, quoi.
D'accord.
Voilà.
Sinon, je disais, par rapport à cette personne avec laquelle tu es rentré en contact, nous, à notre niveau, il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider à la divulgation de ces informations
C'est toujours difficile de dire qu'est-ce que vous, je ne peux pas trop dire ce que vous pouvez faire, c'est à vous de, mais partager l'information quoi. Et puis c'est des solutions qui peuvent servir à beaucoup de gens sur Terre qui sont en difficulté quoi. Donc je pense que ce serait intéressant que ça se sache parce que on est souvent bloqué en disant il n'y a pas de solution. En fait, toutes les solutions à tous les problèmes de la Terre sont déjà là. Et en fait, c'est aussi une chose qu'il raconte, c'est que le contact avec Agartha s'est arrêté en 2013. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il pensait que ça s'était arrêté. Et son interprétation à lui, c'est que Agartha, ils ont envie qu'on fasse des choses. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous dire quoi faire, ils ne vont pas nous dire quoi faire maintenant, ils ne vont pas nous dire quoi faire pendant l'événement, ils ne vont pas nous dire quoi faire après, ils ne vont jamais nous dire quoi faire. En fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous aider, nous donner de la guidance, mais ils ne seront pas là pour... parce que là, si on veut être libéré vraiment, il faut être connecté à sa source et faire les choses de notre propre initiative. Quoi. Parce que sinon, on est toujours dépendant, on n'est pas vraiment libre. Quoi. Voilà. À lui, une anecdote aussi, des fois, leur système de supermarché de solutions, ils l'appellent ça le Frodonomics, à partir de Frodon et Economics, parce que c'est drôle et en même temps, c'est pas drôle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils ont commencé à dire pendant entre 2009 et 2013, où ils se sont dit, mais Frodon, dans Le Seigneur des Anneaux, c'était facile pour lui par rapport à ce que nous, on a vécu de 2009 à 2013, quoi. Donc, ils en ont bavé d'être en plein milieu de ce truc, et il y en a qui ont failli devenir cinglés. Enfin, ils sont vraiment été pris au plein milieu d'un. Ouais, c'est. Moi, des fois, ça me fait penser à E.T. à la fin du film, où t'as tout le monde qui débarque. Enfin, c'est pas exactement ça, mais bref. Ouais, partager l'info, et puis. Peut-être certaines solutions qu'on peut utiliser nous-mêmes ou les proposer à des amis. Utiliser ces solutions-là, quoi.
Tu la poses sur Future for Change
puis je l'enverrai à la vie s'il veut l'envoyer dans la... Il a faire des sites internet, c'est pas encore son fort. Donc, au niveau du contenu, c'est génial, mais des fois, c'est un peu... on est en train de chercher un peu d'aide pour faire un site un peu plus clair. Mais ouais, c'est marrant, hein, c'est que moi je vois encore des maintenant, c'est-à-dire que c'est un truc vraiment qui est vachement intéressant et puis les gens passent à côté quoi. Les gens attendent que le dernier channeling leur dise ah, ça y est, c'est maintenant quoi. Mais c'est un peu aussi à nous de faire ça, quoi. De participer, quoi. Parce que sinon, on est toujours des victimes, on est toujours des on est, dépendant et pas vraiment dans notre pouvoir de c'est nous le créateur. Quoi.
Oui, ça se trouve, l'événement est en train d'arriver juste maintenant et on ne s'en rend pas compte. Donc réveillons-nous. C'est vrai que la Terre est immensément riche de potentiels humains différents et aussi pour faire bouger la planète au moyen de livres, de films, de sites web, de boutiques. Alors, en live, Flash Express, un mail de Lina qui est arrivé à 22h. Donc, pile poil. Je me tourne à droite, tout d'un coup, je vois mon téléphone qui s'éclaire. Je suis guidé à regarder et je vois Liberté Musique. Donc, c'est Lina. Alors, Lina, donc, je suis guidé à vous lire une partie de son mail puisque ça arrive à point nommé. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous montre par ces quelques petites photos le cadeau que la vie m'a donné. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre gentillesse, encouragement, attention, petits messages d'amour, etc. depuis mon premier message sur le site d'Avi. Je sais maintenant que j'ai une famille de cœur et pour moi, dans mon quotidien, de poursuite de guérison et recherche enfin de paix et de bonheur dans ma vie. C'est rassurant et lumineux de vous savoir par le cœur avec moi. Merci, merci, merci. Voilà, donc elle continue avec un peu de détails pratiques. Je vous montrerai les photos tout à l'heure. Donc c'est arrivé en direct. C'est une maison, elle occupe le rez-de-chaussée. Dans chaque pièce, il y a vue sur mer, à part une, je crois. Et le propriétaire est au premier étage. C'est tout particulièrement Marie de Saint-Brieuc et Juliette qui l'ont aidé à trouver ce lieu. Donc c'était le scoop de la soirée. J'ai des nouvelles indirectes du générateur autonome de Fabrice André. Oh. Mais elles ne sont pas directes. C'est un lien que moi j'ai fait. Non, j'ai contacté par email et j'ai plus son téléphone. Donc, si quelqu'un a son téléphone, je veux bien essayer de l'appeler. Donc, tu me le donneras. Dans un des liens qu'il m'a envoyé sur l'énergie libre, il y a un plan complet avec la liste des fournitures pour construire un générateur autonome. Et dans ma tête, ça a fait tilt. Je me suis dit, ben, c'est ça les séminaires qu'il organise. C'est pour construire ça. Et donc, il y a absolument tout. Et il y a même un site internet avec une vidéo où on voit l'appareil fonctionner. Et le site, il s'appelle tout simplement secret au pluriel, avec un tiret du 6, énergie au singulier, tiret libre. Secret énergie libre. Et sinon, on tape les secrets de l'énergie libre sur Google. Et donc, ceux qui veulent se lancer dans cette aventure, c'est, à mon avis, c'est le générateur autonome dont Fabrice André parle et qui fonctionnerait, puisqu'il y a des ateliers pour le construire. Alors, je mets toujours le conditionnel, tant qu'on ne l'a pas vu marcher, comme dirait notre cher Nico, on ne peut pas... le plan est disponible sur le site Les Secrets de l'énergie libre. Si vous laissez votre email, ils vous renvoient le plan. Eux, ils s'opposent à ce qu'on se le diffuse entre nous. Donc, peut-être respectons ça, même si moi, je l'ai obtenu par Fabrice André. Donc, leur commentaire, c'est un meilleur moyen de produire de l'énergie sans polluer, de chauffer votre maison et d'utiliser l'électricité sans dépenser une fortune. Donc voilà, énergie libre, quelque chose qui marcherait, hein, j'en sais pas plus. Donc ceux qui veulent le construire, eh ben, il y a la liste de tous les composants pour le faire. Ça semble pas extrêmement complexe au niveau des fournitures. Et c'est très documenté, ça comprend 40-50 pages de PDF, hein, au moins. C'est en français, oui.
Le remettre en lien, enfin redire un peu qui est Fabrice Santé, parce que c'est pas.
Oui, Catherine, il faut juste remettre en lien, pour ceux qui ont oublié, avec qui est Fabrice André. C'est pas juste quelqu'un comme ça qui... Voilà, c'est donc quelqu'un qui a un refuge à l'Alpe d'Huez, à 2000 mètres d'altitude, qui est très grand, qui est entièrement autonome en énergie à tout point de vue, jusqu'au jardin potager qui est chauffé à 2000 mètres d'altitude avec les légumes qui poussent. Il y a un atelier qui est rempli de générateurs. Et je l'ai vu et je les ai rencontrés, voilà. Donc c'est quelque chose qui est réel. Après, il y a toutes sortes de générateurs. Donc moi, je ne suis pas qualifiée pour identifier lesquels, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est valide, qu'on peut vérifier, on peut rentrer en contact avec ce monsieur, on peut aller au refuge, voir tout ça de ses propres yeux, etc. quoi, hein. Donc voilà. C'est une piste sérieuse à suivre, quoi.
Tu veux parler du journaliste sur RT?
Ah oui, tu avais une question peut-être à ce sujet, puis j'en parle après.
Donc, l'énergie qui est générée dans tout le refuge et pour tout le potager, c'est généré par leur truc d'énergie libre ou ils ont d'autres sources d'énergie?
D'autres. Alors, non, il y en a d'autres. J'ai envoyé à Cobra, hein, de la Résistance, quand j'ai visité le lieu, je lui ai envoyé les liens de cette personne. Je ne sais pas après, on ne m'a pas fait de réponse. Il y a d'autres. En fait, eux, ils avaient commencé par exploiter le moteur surnuméraire de Franck Athème, Léon Raoul Athème, Franck son fils, voilà. Donc, qui a un dispositif surunitaire. Mais qui fonctionne bien, en fait, il m'a expliqué, Fabrice Sandré, contrairement à ce qu'il dit sur Internet, il fonctionne, mais l'énergie en surunité n'est pas applicable à l'emploi domestique. Voilà, donc c'est ça le problème. Donc, eux, ils ont développé différents dispositifs. Il y a du solaire et de l'éolienne. Il y a une autre chose, un convertisseur de déchets. Il y a ça aussi qui existe. Et faut pas oublier que c'est à 2000 mètres d'altitude. Hein, donc, c'est, je sais pas, ils doivent faire 200 ou 300 mètres carrés, le refuge. Et ils ont tellement d'énergie qu'ils peuvent chauffer le jardin avec tout ça gratuitement. Donc voilà, mais ils font des recherches sur l'énergie libre puisqu'ils ont des scientifiques, un groupe de scientifiques qui travaillent avec eux maintenant depuis le mois d'août. Et donc ils m'ont fait visiter l'atelier. Donc le problème c'est que je suis pas très ignorante sur ces choses-là, donc j'ai pas l'œil et les questions qu'il faut pour poser. Ce que j'ai vu, il y avait beaucoup de générateurs et j'ai bien compris qu'il y avait au départ de l'action une turbine qui consommait 3 kWh et à la sortie avec leur dispositif, ça en produisait 30. Donc il y avait bien une surunité de 27 kWh. Et il y avait plusieurs de ces dispositifs dans l'atelier et il y avait d'autres dispositifs qu'ils étaient en train de mettre au point. Et donc voilà, donc après je sais pas, je sais qu'ils ont également un véhicule qui fonctionne en autonomie et qu'ils là ils avaient une équipe pour rejoindre rallier le Cap Nord avec ça, donc ils ont plein de choses comme ça, hein, et ils disent que c'est des techniques de l'armée qu'ils utilisent. Donc enfin il a expliqué que en fait l'armée, quand elle envoie des missiles silencieux, c'est pas avec du solaire et c'est pas avec des moteurs explosion, puisque c'est silencieux, c'est qu'il existe d'autres sources d'énergie pour les employés et c'est ça qu'ils utilisent. Après, moi, je ne sais pas comprendre plus, mais on peut y aller, hein, tout le monde peut y aller dans ce refuge et parler avec lui, quoi. Enfin, il est très occupé, mais voilà. Et j'avais en tout cas envoyé les liens à Cobra Résistance. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a. Non, c'est en français, bien sûr. Moi, j'avais mis quand même j'avais écrit toute la lettre en anglais. Hein. Puis après, je dis que je reste à disposition s'ils avaient besoin, mais bon, on n'a pas recontacté. Mais c'est connu. Il y avait eu à l'époque un reportage FR3, il y a plusieurs années de ça, chez lui parce qu'il utilisait le moteur surunitaire. Et ensuite, il avait créé un dispositif qui faisait que ça choisissait quel type d'énergie utiliser pour alimenter son refuge, puisqu'il avait aussi le solaire, l'éolien, le convertisseur de déchets, il avait tout ça. Après, il m'a dit que le moteur surunitaire, donc c'était pas très exploitable pour l'énergie domestique, bien qu'il était réellement surunitaire, voilà, mais qu'ils étaient sur d'autres dispositifs. Bon, je ne sais pas analyser plus, dire plus. Mais j'ai vu ces générateurs, il y en avait un plein atelier.
Et donc l'énergie qui génère dans ce refuge, ça vient tout, en tout cas, du solaire et des éoliennes. Ils sont indépendants, ils sont autonomes, ils ne sont pas connectés à l'EDF.
Non.
Et ils ont des générateurs à pétrole, des générateurs d'électricité.
Non, non, non.
Ok.
Gaz, c'est avec le convertisseur de déchets. Parce que je ne sais pas le dire, je ne me souviens plus du nom de ce dispositif. Je sais que je suis allée à l'arrière du refuge, il y a un autre bâtiment, et là, il y avait un générateur qui convertit des déchets. Et ça, oui. Et ça, c'était leur truc principal. Ce n'était pas le solaire le principal. Et l'éolien. Et après, il y a toutes ces. Dans l'autre atelier qui est grand, où là, il y a ces générateurs dont je parle, avec les turbines qui consomment 3 kW à l'entrée et qui en produisent 30 à la sortie. Là, j'ai cru comprendre, c'est à l'état de recherche. Mais ils sont un paquet de gens là-dessus, et notamment, il y a un cercle de scientifiques. Le monsieur qui m'a fait faire la visite était un ancien PDG d'une société de chimie, et il était, qui était à la retraite, et qui passait tout son temps, et qui n'arrêtait pas de dire, il faut diffuser ça, que sa femme était inquiète, parce qu'ils étaient embêtés avec les recherches qu'ils faisaient, mais que leur protection, c'était de le diffuser, de le faire savoir. Évidemment, quand tu vas sur Internet, il y a des détracteurs, forcément. Et moi, je dis, là, on a les coordonnées et tout. Donc, et voilà. Et ce monsieur propose des stages pour fabriquer un générateur autonome. Tu repars avec ton générateur.
Qui n'est pas applicable sur le domestique.
Si, qui est applicable sur le domestique. Et ça te revient à 420 € pour 1 kWh. Donc lui disait que tu chauffais une petite maison avec trois, un lieu plus grand comme ici, mettons 5 ou 6, et puis une fois pour toute ta vie, et a priori, il y a une pièce à changer tous les 10 ans, qui coûte 200 €, et voilà. Et eux, ils ont tellement d'énergie qu'ils ouvrent les fenêtres et qu'ils chauffent le potager comme ça, à 2000 mètres. Donc c'est... Moi, j'ai mangé leurs légumes là-bas.
Donc, un petit complément d'information. De ce que j'ai entendu de Fabrice André et de ce que j'ai lu ensuite, le principe consisterait à supprimer ce que les physiciens appellent le BAC EMF. EMF, ça veut dire Electromagnetic Force, et BAC, c'est ce qui empêche le moteur de continuer à partir d'un moment. Il y a une force électromagnétique qui bloque la rotation. Et c'est cette force qu'il faut dépasser et il serait arrivé grâce à de l'électronique ou de, je ne sais pas, ou un circuit, à neutraliser cette force contraire à la rotation qui fait que tous les moteurs magnétiques, à un moment donné, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent à un point de non retour, non passage. Alors, on a les plans. S'il y a assez de volonté, s'il y a assez de connaissances techniques, montons un groupe pour le fabriquer. On a les plans. Hein. Il faut investir un petit peu dans les matériaux. Il faut du temps. Moi, je suis prêt à coordonner ça, puisque il suffit de suivre les instructions, faisons-le, puisqu'on n'a pas de nouvelles directes de Fabrice André. J'ai essayé de le contacter plusieurs fois, même si je l'ai eu une fois au téléphone. Après, j'ai plus réussi à le...
Deux choses par rapport à ça. Moi, je me souviens que Fabrice André, enfin, le monsieur, le chimiste qui m'a fait visiter les ateliers, m'avait dit que lui, la première fois pour rentrer en contact avec Fabrice André, il avait dû s'y reprendre 20 fois. Donc il m'a dit, il est très occupé, très demandé, etc., etc., parce qu'il a des détracteurs, mais là, il y a aussi des gens derrière, hein. Et donc, voilà, c'est pas forcément anormal, si tu veux, puis voilà. Donc ça, c'est une chose, peut-être qu'on devrait réinsister. Et puis, l'autre chose, c'est, alors, donc, le plan faire soi-même, oui, pourquoi pas, mais je me souviens des objections qu'avait fait Thierry du Cher, qui était peut-être pas toute valide, mais enfin, il disait par exemple qu'il y avait un des logiciels qui coûtait je sais pas combien, etc. Ce à quoi Fabrice André avait dit qu'il sous-traitait, donc non, ça c'est plus valide.
C'est réglé.
C'est réglé, ça, il n'y a pas. Ok, bon. Non, lui. Je parle, il y a d'autres questions là-dessus, je parle du journaliste allemand.
Donc ceux qui veulent participer ou coordonner ça ou installer l'atelier chez eux, qui se sentent, voilà, on pourrait faire un projet qui serait un projet de groupe, éventuellement avec un financement à voir de groupe. Imaginez qu'on puisse en produire un et qui fonctionne. Bah, immédiatement, tout le monde voudra la même chose chez soi. Donc, faisons le premier. Hein. C'est tellement évident qu'il faut tester ça. Et bon, ça a l'air d'une piste quand même relativement sérieuse avec Fabrice André par rapport aux milliers de choses qui fonctionnent qui circulent sur Internet. Il y a du faux et du vrai, bien sûr, comme partout. Et puis, il y a Paul qui était là la semaine dernière, c'est une connaissance de Ludmila, qui a fait fonctionner le générateur dans une bouteille de coca, pour ceux qui connaissent, de l'ingénieur Kesh iranien. Trois électrodes plantées dans une bouteille vide, dans laquelle on a fait transiter une solution, puis on l'a vidée, qui produisent... Un courant électrique. Et aucun physicien qui a vu ça n'a trouvé de réponse à d'où ça venait. Et Paul a réussi à le reproduire. Et donc, il devrait m'appeler pour qu'on le refasse ici. C'est pareil, ça produit quelques millivolts ou quelques milliwatts. Mais d'où ils viennent, hein ? C'est pas tant la quantité d'énergie, plutôt que c'est possible, hein, quand on est en train de démontrer ici. Donc voilà, ceux qui veulent tenter l'expérience, manifestez-vous.
Oui, Catherine, donc j'ai vu une information ce matin qui est sur la page Facebook de Prepare for Change, voilà, qui m'a paru très intéressante. Donc un journaliste allemand. Donc c'est le deuxième, puisqu'on avait eu un journaliste du Nouvel Observateur la semaine dernière, je crois, et là maintenant c'est un journaliste allemand qui, pendant 10 minutes, ose révéler que oui, il y a une manipulation derrière les journalistes. Les journalistes sont manipulés pour déformer l'information. Et il explique comment c'est fait, comment pour lui, dans son cas, ça s'est passé. Et on voit, apparemment, son truc n'est pas vraiment préparé, parce qu'on voit qu'il parle vraiment en direct. Et je me suis dit, mais ce monsieur est vraiment très courageux, il prend quand même des risques pour dire ça. Mais donc voilà, je trouve ça, c'est une info, parce que là, en 15 jours, ça fait quand même le deuxième journaliste qui dit, mais attendez, effectivement, qui révèle la réalité, quoi, de la désinformation, de la manipulation de l'information. Donc un Français, Nouvel Obs, et un Allemand, il parlait, j'ai oublié le nom allemand, le journal de Frankfurt. Oui, voilà, Frankfurt Allgemeine. Voilà. Donc c'est posté sur la page Facebook de Prepare for Change France.
Alors moi j'ai. J'ai eu accès à un texte canalisé qui s'appelle « Dialogue avec l'ange »,« Dialogue avec mon ange », qui n'est pas celui d'origine. Hein. Ce n'est pas « Dialogue avec l'ange », mais « Dialogue avec mon ange », c'est écrit en partie et canalisé en partie par deux êtres qui s'appellent Sand et Genaël. Donc Sand comme S-A-N-D et puis Genaël, J-E-N-A-E-L. Ça fait quelque temps que je lis leurs messages, je les trouve d'une puissance assez forte. Et ça va en grandissant. Le dernier numéro, 33, comme par hasard, est réellement très puissant. Hein. De mon point de vue, il n'y a aucune complaisance avec le mental ni l'ego. Il y a quelque chose de très lucide. Et puis, dialogue avec mon ange, c'est, ils disent, l'ange, c'est votre soi supérieur. C'est pas une entité inconnue ou spécifique. Chacun a son ange. Voilà, et alors, pour donner un ordre de comparaison, je le trouve pratiquement aussi fort et aussi bouleversant dans le bon sens du terme que la cinquième interview du docteur Neruda des Wingmakers qui dépote déjà beaucoup. Donc ça, ouais, les choses qui sont bouleversantes comme ça, en termes de dire la vérité, il y en a réellement assez peu, et pour moi qui résonne à ce point, il y en a encore moins. Donc il y a le texte, il y a une vidéo sur YouTube où on peut avoir l'audio, on peut avoir le mettre sur son MP3, etc. C'est vraiment, pour moi, c'est des êtres éveillés qui nous parlent de l'âme, qui nous parlent du changement de dimension, qui nous parlent des énergies, qui nous parlent des miracles qui se produisent dans leur vie lorsqu'ils vivent en alignement avec leur soi supérieur. Donc ça, pour moi, ça nous indique des directions, ça pave la route de l'éveil, ça pave, voilà, et puis c'est sans aucune complaisance, c'est-à-dire que ils laissent l'ego là où il est et ils incluent leur propre ego, ils incluent leur propre expérience avec beaucoup d'humilité. Donc ceux qui sont en recherche d'une direction, voilà, ça peut être un bon guide pour trouver sa propre guidance intérieure pour son évolution, sa croissance. Sans dégénérer. Voilà. Et puis j'ai un autre sujet, sauf s'il y a quelque chose d'autre à dire, on s'arrêtera après, hein, vu le nombre de bâillements qui se passent dans la pièce. Ceci est dit sans aucun jugement, chacun a le droit d'être fatigué. La chambre tachyonique, donc c'est arrivé, le projet est arrivé à un point où on a à peu près un tiers de financement, ça veut dire qu'il reste... Sur 15 000 euros, il reste environ 10 000 à financer. La page Facebook de la Chambre Tachyonique n'est plus une page privée, c'est une page publique. Ça veut dire que vous pouvez y entrer sans être invité. L'étape suivante, parce que c'est sûr qu'avec un tiers, on ne peut rien commander, hein, il nous manque 10 000 euros. Alors, soit il y a un généreux donateur qui amène les 10 000 euros, quelqu'un en dira merci beaucoup, et puis on aura ça pour Noël, peut-être. Ou, dans l'autre cas, moins miraculeux, on s'organise, et donc l'idée dont on a discuté avec Catherine cet après-midi, c'est que chacun qui a donné recevra un email qui va l'encourager à partager avec ses proches, puisque cette personne est vraiment impliquée, c'est de quoi elle parle, partager avec des personnes qui sont réceptives ce projet pour susciter des investissements. Donc ça, c'est les 25 personnes environ qui ont donné jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième idée que j'ai émise, c'est de diffuser dans tous les forums et dans tous les sites qui sont, entre guillemets, spirituels. Parce que ça ne devrait pas rester seulement PFC, ça devrait se diffuser, je pense, à tous les forums où vous pouvez entrer un article. Donc, si on met sur la presse galactique, sur le grand changement, sur, partout une indication, une nouvelle technologie sur le point d'être acquise, si vous voulez participer, il est encore temps de verser votre part et vous pourrez profiter de ces bienfaits. C'est là que ça peut faire une traînée de poudre. Hein. On ne laisse pas ça confiné au groupe PFC parce que ça n'a pas de, de sens que ce soit seulement PFC. Tous ceux qui veulent une croissance, un changement de paradigme sur Terre ben, devraient être intéressés par ça. Donc deux actions, en parler physiquement autour de soi et puis agir et publier des articles partout où il y a un écho qui est possible d'obtenir pour que ça se diffuse au-delà de... Alors pour Facebook, déjà, sur la page PFC, remonter ça tout en haut pour dire c'est public, c'est ouvert, inscrivez-vous... Et voilà, que ce ne soit pas quelque chose qu'il faille rechercher dans l'historique. Donc, remettre ça comme sujet nouveau. Hein, et moi, je l'ai fait sur Être Plus, j'ai remonté en haut de la liste. Donc, le faire partout où c'est possible. Voilà, et en dernier ressort, en dernier lieu, ben, on fera appel au financement collaboratif s'il manque encore un petit peu de sous. Peut-être qu'il y a encore une petite impulsion à avoir avant de s'ouvrir à plus large. Voilà sur ce sujet-là.
Oui, rappeler la raison pour laquelle on l'avait gardé pour PFC, c'était pas pour en priver d'autres personnes à l'extérieur. Hein. C'est un peu comme là, entre nous, on se dit, tiens, on va au cinéma demain. C'est normal qu'on se le propose entre nous. Et donc là, l'idée, c'est que comme ça émanait de PFC, du site de Cobra, donc par Tachyonis, voilà, c'était une idée familiale, on va dire, la famille, c'était juste ça. Mais vu qu'avec la famille, apparemment, seulement, c'est pas possible de l'acquérir, donc du coup, on va élargir à la famille de Lumière. Enfin, je tenais à ça.
Donc même si vous avez seulement l'idée d'un site où le diffuser, publiez-le hein, ou donnez-moi le site en question. C'est-à-dire, c'est important d'avoir aussi toute une panoplie de sites. Si vous pensez à un site, soit vous publiez l'info, soit vous dites on pourrait la publier là et quelqu'un d'autre s'en chargera. Mais on va ramasser les idées hein, là. On va faire une collecte de tout ce qui est... Ça ne devrait pas être très dur d'avoir une liste de 30 ou 50 sites qui sont branchés spiritualité, branchés nouvelle terre, branchés nouvelles énergies.
Catherine, encore, on fait un ping-pong entre Abby et moi. Mais surtout, le plus sûr, c'est quand même que chacun d'entre vous, d'entre nous, parlions à des personnes de notre entourage. Hein. Il y a on le connaît ça dans les lois commerciales, il y a un retour beaucoup plus important quand on parle à quelqu'un qu'on connaît que quand on fait une diffusion plus anonyme. Hein, et c'est... Bon, la différence est très, très, très importante. Et donc, là, par exemple, nous sommes actuellement une trentaine de co-acquéreurs. Il suffirait que chacun ramène une personne. On est déjà à 60. On a déjà presque bouclé. Hein. Donc, c'est pas énorme. Je sais que moi, j'en ai parlé dernièrement à deux amis. Les deux ont adhéré. Deux amis en affinité avec nos propos, évidemment. Les deux ont adhéré. Deux amis non PFC.
Donc sur la boîte de Yogiti Choco, il y a un vortex, une spirale. Hein, donc si vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant, et puis il y a la spirale du recyclable. Mais sinon, il y a une vraie spirale. Donc... à déguster pour changer de dimension, ceci étant le mot de la fin. Chers amis de PFC, à très bientôt pour une nouvelle réunion.